Le prix de l'essence, parce que ça, c'est la douloureuse tous les matins ou une fois par semaine, voire deux, quand vous passez faire le plein. Et cette musique, cette antienne qui revient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui plombe ? C'est le fait que la France soit plombée par la taxe.
Mais rendez-vous compte, hein, le prix du gasoil est au plus haut en France depuis au moins 1985. Et c'est vrai que quand on se compare avec nos voisins européens, la France est le pays qui taxe le plus ses carburants. Ça représente 60% du prix à la pompe. Et donc, il y a une pression politique, mais aussi une pression des automobilistes pour dire il faut faire baisser les taxes. Des taxes notamment environnementales, la taxe, la fameuse assise aussi. Tout ça, ça représente quand même plusieurs dizaines de centimes d'euros qui pèsent bien entendu sur le prix. La fiscalité sur les carburants est un impôt sur le droit de vivre total et fatal pour l'économie. Voilà ce que dit Pierre Chasseret, qui sera avec nous tout à l'heure, le président de 40 millions d'automobilistes. Il utilise cette expression qui est forte. Il dit, nous avons un pays, une France toxicomane de la taxe.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est le levier que doit utiliser le gouvernement depuis qu'on a commencé le sujet ? Pression d'avoir le petit chien derrière la voiture, Antoine Dire, avec la tête qui fait comme Antoine.
Oui, mais c'est entièrement ça, et je dirais même plus que toxicomane, c'est qu'on est en overdose fiscale. C'est-à-dire que le stade d'avancée est déjà arrivé. 483 impôts et taxes dans notre pays, le carburant, on en parlait, représente 11% des dépenses d'un ménage en moyenne, donc c'est hyper lourd avec beaucoup de taxes. Et en réalité, on est accro à la taxe parce qu'on est accro à la dette. Notre pays est parmi les plus endettés au monde, parmi les pays développés. Il faut savoir que dans quelques années, les intérêts de la dette représenteront 100 milliards de dépenses par an. Juste les intérêts de la dette. Et on réfléchit à financer un porte-avions à un peu plus de 10 milliards d'euros et on dit c'est beaucoup. Mais en fait, tant qu'on n'arrivera pas à arrêter de dépenser n'importe comment, à créer de la dette, eh ben, l'État n'aura pas d'autre solution dans sa toxicomanie de continuer à avoir...
Donc on ne peut pas baisser les taxes, si
on
je t'écoute.
On ne peut pas. Voilà, c'est le toxicomane arrivé à l'overdose. Il ne peut plus sans une cure grave de désintox de la dépense publique.
Ou alors on va en crever.
On est à deux doigts. On est juste avant l'overdose, pour être très juste. Et donc ça veut dire...
Donc on dit quoi aux automobilistes ? On dit ben, on ne peut rien faire, débrouillez-vous.
Eh ben, l'État ne peut rien faire. C'est-à-dire que... Et je l'avais dit ici, avec la hausse des prix, l'État est pieds et poings liés, il n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Et surtout, la baisse de la consommation du carburant fait que paradoxalement, et les gens vont hurler quand je vais dire ça, mais les recettes de l'État n'augmentent pas. J'avais calculé, on est à 20% de baisse de la consommation. C'est exactement ce qui fait qu'en réalité, les
donc
recettes fiscales
sont maintenues. Il n'y a pas de cagnotte fiscale.
Il n'y a en réalité pas de cagnotte fiscale avec une baisse de la consommation. Et donc l'État, il est coincé. Il est obligé de continuer à taxer parce qu'il a tellement de dépenses et tellement de dettes.
Laura, t'es venue en voiture ?
Ouais, moi je suis venue en voiture. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Antoine. Ah. Pour moi, alors effectivement, on a trop de taxes, ça c'est un fait. Mais ce qui plombe pour moi notre pays, c'est que l'argent ne circule plus. C'est-à-dire que l'argent ne va plus qu'à un seul endroit, c'est-à-dire dans les caisses de l'État. À partir du moment où l'argent ne circule plus, il ne fonctionne plus et il ne crée plus de dépenses. Et ça revient exactement à la même chose pour les automobilistes. Moi, je suis complètement contre cette idée de chèque gros rouleur ou petit ménage. On doit purement et simplement baisser les taxes sur le carburant.
Pour tout le monde.
Et pour tout le monde, pour que l'argent retourne dans les sociétés. Parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train d'asphyxier les TPE, PME, ainsi que les petits ménages, qui n'ont pas forcément les moyens. Ce qui fait qu'il y a une baisse des dépenses, il y a une baisse des recettes fiscales des entreprises, on est en train de créer des dettes des entreprises. Et tout ça, ça va faire de l'investissement en moins, de la consommation en moins, du développement en moins. Et forcément...
Mais Laura, j'ai entendu la gauche dire, oui, mais baisser, par exemple, la TVA pour tout le monde, bah, ça va profiter aux gens qui ont les moyens de supporter la hausse des carburants.
Sauf que les gens qui ont les moyens, plutôt que de mettre 10 balles de plus dans leur plein d'essence, vont peut-être aller mettre 10 balles de plus dans une boutique de quartier qui vend ses fringues. Donc ça va faire... En fait, c'est toujours le problème de la gauche, c'est qu'on en veut aux riches. Tant qu'on ne comprendra pas, et j'en fais pas partie, mais j'ai été la salariée de personnes très riches, ou alors la prestataire, c'est eux qui nous font bouffer. Donc plus on les asphyxie, et moins ils consomment. Et ensuite, c'est le petit chat qui se mord la queue. Et on en arrive dans l'état du pays actuel. C'est-à-dire qu'on a eu un pays qui, pendant des années, n'a penser qu'il y a une chose au court terme, hein, l'économie au court terme, à un investissement au court terme, et toujours
et
pareil.
Toi, parce qu'on parlait de la consommation en baisse, tu roules moins ? Tu consommes moins ?
Ben non, moi je peux pas rouler moins, mais je consomme plus.
C'est parce que
à côté que
l'argent va dans le plein essence.
Les économies ailleurs. Je suis bien obligée de mettre le plein dans ma voiture. Alors, je fais un peu plus de plein électrique, parce que j'ai une hybride rechargeable. Donc, je fais un peu plus de plein électrique. Mais il y a quand même un moment où je dois faire mon plein. Et là, mon plein, il m'a coûté 100 balles cette semaine.
Je rappelle, sur 2 euros, c'est 1,20 euros. Sur 2 euros le litre, c'est 1,20 euros pour l'État. Et c'est 3 centimes, je crois, simplement pour la station service.
Et tu te souviens, il y a quoi, il y a 2 semaines, quand ça a vraiment commencé, on avait eu un expert en énergie fossile, etc., qui nous aidait. C'est faux, il n'y a pas de spéculation. Total, c'est x4. Hein. Là, ils ont fait x4 de chiffre d'affaires.
Monsieur Poncet, avant d'écouter Pierre Chasseret qui sera avec nous.
Bah évidemment qu'on est malade de tout ce qu'on peut taxer aux Français. Le seul sujet, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu un mode de fonctionnement de l'État. Moi, j'écoutais ce matin, ils expliquent que là, comme c'est le week-end pascal, les banques ne vont pas travailler. Donc, ils expliquaient que ça va impacter 40 millions de Français de ne pas recevoir les aides de l'État, quelles qu'elles soient, allocations familiales, quoi que ce soit, de vendredi à lundi prochain. Ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, au lieu de que la priorité de l'État, c'est de développer son industrie, développer ses commerces, développer tout ce qu'il fait, et donc de développer l'emploi, c'est de récupérer de l'argent aux Français pour leur redonner d'une autre façon. Et alors, c'est pire qu'un chien qui se mord la queue, c'est que t'es dans une espèce de roue, c'est le hamster qui tombe.
C'est un peu notre système.
Oui, mais c'est un système qui
faut changer. Très fiers, même. On dit qu'on a un système de redistribution unique au monde.
Oui, mais c'est.
Tout le monde est très attaché, évidemment, à ce système.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que si tu veux faire fonctionner n'importe quel système, et principalement, alors oui, évidemment, il y a des choses à faire sur la redistribution, sur le prélèvement des impôts à certains, parce qu'évidemment, c'est aussi injuste, le prélèvement des impôts, tu as des gens qui payent moins d'impôts en proportion par rapport à ce qu'ils gagnent, alors qu'ils devraient payer plus. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est, là, on est au salon de l'industrie, on est quand même là-dedans.
C'est l'emploi.
C'est l'emploi, et donc plus tu as des gens qui travailleront, moins tu auras besoin de donner des aides à l'État, l'État aura moins besoin de donner des aides,
et puis
d'ailleurs. Plus les gens consommeront, et ainsi de suite. Donc en fait, aujourd'hui, c'est développer l'emploi. Sauf que, par exemple, et là aujourd'hui, on entend que les petits transporteurs ou d'autres réclament des aides. Mais ça se comprend parce qu'en fait, ils sont asphyxiés par un tas de trucs.
Ils n'ont aucune trésorerie, donc ils sont.
Ils n'ont pas de trésorerie. Et puis surtout, il faut toujours rappeler que le transport de n'importe quelle marchandise est une valeur qu'on ajoute à la valeur initiale du produit. Donc forcément, ce n'est pas un truc qui rapporte à personne, hein, le transport.
Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement va pouvoir tenir? Parce que là, il fait le pari que la guerre va s'arrêter dans peu de temps. Sauf qu'on en est à la 5e semaine. Donc le pari commence à être perdu.
Non, mais il faut...
Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le gouvernement
Il faut un gouvernement un peu courageux, c'est-à-dire à un moment donné prendre des réelles décisions. Comment ça se fait qu'en France, on n'ait pas des entreprises du monde entier qui viennent se battre pour être sur notre territoire? Enfin, je veux dire, une adresse postale en France, c'est quand même un gage de qualité. Comment ça se fait qu'on n'ait pas encore pensé à faire des zones franches, notamment pour les grosses industries?
Il y a quand même des entreprises qui viennent s'installer en France.
Beaucoup d'exonérations.
Là, tu regardes, on a perdu Apple.
Apple. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est dur pour les Français, etc. Mais ne refaisons pas le coup du quoi qu'il en coûte.
Si tu fais des économies à côté.
Et donc la seule possibilité, c'est de faire des économies.
Exactement. C'est des choix budgétaires.
Est-ce que les Français sont prêts à faire des économies?
On va retrouver Pierre Chasseret qui est avec nous, justement le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Souvenez-vous, au début de la crise, Pierre Chasseret était venu sur le plateau des GG, des Grandes Gueules, pour nous prévenir, pour dire attention, on va courir à la catastrophe. Et il avait même envisagé, Pierre Chasseret, dans le scénario le pire qui soit, qu'on arrive à 3 euros l'essence. Mmh. On n'y est pas encore. Bonjour Pierre Chasseret.
C'est 2,57
euros. Bonjour Pierre. Bonjour, mais...
Rapprochez-vous du téléphone.
C'est vous qui avez employé cette expression, la France est le toxicomane de la taxe, Pierre.
Oui, c'est moi. J'ai voulu employer cette phrase pour une raison évidente, c'est que la France ne sait pas répondre autrement à une logique de perte financière que par une taxe supplémentaire. Or, quand on regarde et qu'on étudie un petit peu l'économie, on s'aperçoit, on va trouver, c'est très documenté, très détaillé, et je l'avais expliqué le premier jour, dès le début de la crise des carburants chez vous, chez les Grandes Gueules, il y a une courbe économique qui démontre qu'une surfiscalité vient tuer l'économie. C'est comme ça. Et quand j'entends que l'État français dit il ne faut pas se résoudre à baisser les taxes, eh bien j'ai envie de leur donner un petit conseil économique, c'est de se documenter. Le quoi qu'il en coûte actuellement, c'est pas de baisser les taxes, c'est de ne pas les baisser. Il faut abaisser au plus vite la fiscalité. Pourquoi? Parce que si on maintient cette fiscalité, si on prend l'exemple d'un litre de carburant à 10 euros où on mettrait 9,17 € de taxes, on s'aperçoit bien que la société économique meurt. Plus personne ne peut se déplacer. C'est toute la société qui meurt. Et la barrière aujourd'hui de la surfiscalité est déjà dépassée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on est déjà dans la surfiscalité, on est déjà en train de restreindre notre croissance. Je l'avais annoncé sur le plateau des Grandes Gueules. Qu'est-ce qui se passe? On est 4 semaines plus tard, 4 semaines après mon interview, et on nous a annoncé quoi? Ce que j'avais prédit. Mais j'avais pas besoin d'être très intelligent. C'est-à-dire déjà une perte de quasiment un demi-point de croissance. Je rappelle qu'un point de croissance en France, c'est 30 milliards d'euros. Donc grosso modo, si on perd un demi-point de croissance, on aura déjà perdu 15 milliards. C'est comme ça, c'est factuel.
Mais on voit, vous qui êtes à la tête d'un mouvement d'automobilistes, on entend cette semaine plutôt la colère des transporteurs. Il y a eu des opérations escargots hier en Ile-de-France. Il y en a aujourd'hui, notamment du côté de Bordeaux. Et toute la semaine, il y aura des points de rassemblement des transporteurs. Est-ce que ce mouvement de colère peut être plus large et s'étendre à d'autres professions qui seraient prêtes à se mobiliser dans les prochains jours?
Oui, je pense que ça risque d'arriver, mais chacun joue pour soi. J'ai entendu l'interview du président du syndicat des transporteurs routiers qui disait « Ah ben non, faut pas baisser les taxes pour tout le monde, faut les baisser uniquement pour les transporteurs routiers. » Et avec cette fameuse phrase que tout le monde répète pour se donner l'air malin, alors on dit « Parce que l'État n'a pas les moyens. » Et tout le monde répète cette taxe, cette phrase. J'entends tous les journalistes répéter « Ah ben oui, mais l'État n'a pas les moyens. » Mais intéressons-nous de près à l'économie. Le principe du pro d'impôt tue l'impôt, la courbe de l'affaire, le fait qu'il y ait de la surfiscalité qui vient taxer les Français est aujourd'hui en train de faire reculer notre croissance et de nous coûter
excessivement cher. Cette surfiscalité, pardon. Oui, mais j'ai bien compris, Pierre, mais il y a une explication. C'est-à-dire que on veut décarboner aussi la France comme les autres pays, donc on taxe fort l'essence, le gasoil, pour que les gens soient incités à aller vers l'électrique. D'ailleurs, une partie de ces taxes finance les énergies renouvelables. Okay. Je veux dire, il y a quand même derrière. Et bien sûr, on est drogué à la taxe,
pauvre, hein.
Mais la taxe, ça permet aussi de flécher les choses. Et là, on veut flécher les Français vers l'électrique.
Allez, on va annoncer une mauvaise nouvelle à tous les possesseurs de véhicules électriques. Déjà, on va se poser sur un prix. Si on enlève toutes les taxes sur le carburant aujourd'hui et qu'on ne gardait que la TVA, à 20%, hein, même pas à 5%, on garde que la TVA, le litre de carburant, il serait inférieur à 1 euro. Voilà. Inférieur à 1 euro. C'est-à-dire qu'il serait compétitif et pas cher. Aujourd'hui, l'électricité, pour tous ceux qui ont acheté la Tesla, pour l'instant, on ne paye pas d'accises de mobilité, on ne paye pas les certificats d'énergie, on ne paye pas toutes ces taxes sur l'électricité. Et pourtant, quand on fait notre plein sur une borne de recharge rapide, notamment sur autoroute, ça revient beaucoup plus cher, voire le même prix que le carburant traditionnel. Et l'électricité n'est pas taxée. Qui est suffisamment, bonnet pour imaginer qu'un jour l'État toxicomane des taxes ne va pas électrocuter de taxes les possesseurs de véhicules électriques. Ce sera la même chose. Donc aujourd'hui je suis le défenseur de tous les automobilistes, demain je serai le défenseur de ceux qui roulent en électrique et qui se font électrocuter à la station.
Merci Pierre Chasseret, merci d'avoir été avec nous, délégué général, association 40 000 ans d'automobilistes. Merci Pierre Chasseret. Dans un instant, on sera avec Farouk. Farouk, il est conducteur de train, il est du côté de la Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Bah, lui aussi, il voit quand il fait son plein essence. Ce qu'il veut, c'est que, il est un peu sur cette ligne que l'on entend, c'est que l'État nous lâche un peu, quoi. Voilà, simplement pour pouvoir bosser et consommer. L'État toxicomane de la taxe, la France droguée à la taxe. À tout de suite avec les GG en direct sur RMC, en direct du Salon Global Industrie. Restez avec nous, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG en direct du Salon Global Industrie ici à Paris, à Villepinte. Nous sommes là en direct pour prendre le pouls économique du pays, de ces industriels qui sont là et qui viennent défendre aussi leur savoir-faire. Et on en parlera tout à l'heure avec le ministre de l'économie. Il sera là à partir le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. Il sera là avec nous à partir de 10h.
60 000 visiteurs attendus et beaucoup de jeunes, parce que le responsable de ce salon m'expliquait que l'idée, c'est d'attirer les jeunes Français et les jeunes Françaises vers les métiers de l'industrie. Ce
fonctionne.
Sont des métiers qui rapportent et souvent mieux payés que les services, par exemple.
Qui travaillent beaucoup à l'international. Ici, nous sommes à côté du village des industries électroniques. On a pu discuter avec quelques-uns des exposants qui nous ont dit heureusement que nos sociétés ont pris le virage de l'industrie électronique, de l'industrie électronique de pointe. en ce qui concerne notamment l'aviation, le militaire, l'armement. En revanche, on est très en retard sur l'intelligence artificielle. Là où les Américains et les Chinois ont mis le paquet, ils disent nous, on a raté le train, ouais. Et ça risque de nous poser des problèmes dans le futur.
Si on a raté le train, c'est la faute de Bruno.
Revenons à nos soucis de l'essence du quotidien. C'est Farouk qui est avec nous, Farouk de Saint-Denis, qui est conducteur de train. Tiens, un collègue à toi.
Ah ben,
mon un cher vrai professionnel, Bruno. Messieurs.
Bonjour Farouk.
Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour les grandes gueules. Je voulais juste dire un petit mot, une pensée à nos enseignants. Salut, une pensée à nos enseignants aujourd'hui qui sont en grève concernant la suppression des postes et pour l'augmentation de leur salaire. Une petite pensée pour eux. Alors en ce qui concerne le sujet qu'on aborde, mais quand est-ce que le gouvernement et le président de la République vont nous laisser tranquilles? Nous, ce qu'on demande, c'est de travailler, c'est de vivre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de nous préparer un confinement énergétique, alors que pendant ce temps-là, l'Espagne, l'Australie, ils ont mis en place des mesures qui baissent le litre d'essence entre 25 et 30 centimes sur le litre. Mais aujourd'hui, le gouvernement et le président, mais qu'ils aillent s'occuper de la Reine des Neiges et qu'ils nous laissent tranquilles, ça suffit. On a l'impression qu'aujourd'hui, nous qui...
Oui, alors Farouk, pardon Farouk.
Oui.
Ouais, excusez-moi, parce que là... On peut pas à la fois réclamer plus de profs, par exemple, puisque vous avez commencé par ça, et puis dire qu'il faut baisser. Je termine. Baisser les taxes sur le carburant, parce que pour financer notre système avec effectivement beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'argent public, il faut bien des impôts.
Mais t'as d'autres fonctionnaires que tu peux supprimer. Tu peux garder les profs et supprimer le truc territorial.
Non mais je vais aller plus loin.
Bah nos jeunes.
Farouk, votre future retraite est payée par les centimes de plus à la pompe aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête que les retraites des fonctionnaires, et notamment de la SNCF, ne sont pas financées. Je ne sais pas sur quel contrat il est.
Si on est une boîte privée, t'inquiète.
C'est de l'argent public qui vient largement financer la SNCF et notamment ses retraites.
Donc,
pardon, mais je veux bien qu'on imagine de baisser les taxes, mais il faut accepter que derrière ces taxes, c'est nos retraites, le service public, etc. Et que tout ça, faut diminuer.
Mais non, mais service, tu peux pas dire ça. Bah, je suis désolée. Non, Farouk, il a raison. Tu peux pas supprimer des profs là où nos gamins, ils sont en
train de. Il y a moins d'élèves.
Ils sont en train d'élèves. De. Mais nos gamins, ils sont en train de devenir illettrés.
Mais c'est pas parce qu'il manque des profs.
Mais bien sûr que si.
C'est parce qu'on est moins exigeant à l'école.
Tu vas enlever les classes de double niveau. Tu vas pouvoir enlever le.
Alors, donc, il y aura un jour plus d'élèves, mais il y aura toujours
des profs. Non, c'est pas ça que je te dis, Olivier. C'est juste que je pense que quand t'as 10 personnes qui sont payées pour faire exactement la même chose entre les communes, les intercommunes, les régions, le département, tu peux les tèges, tu peux diminuer. Tu peux diminuer aussi les indemnités de tous les ministres qui sont passés, qu'on reste
trois mois.
Mais tu diras ça à M. Martin
tout à l'heure.
Eh bien, je vais lui dire, moi, j'aurais aucun problème avec ça. Mais j'estime que, vu la gueule de notre jeunesse, on peut peut-être garder nos profs.
Alors, tu vois, Laura, je t'apprécie beaucoup, mais là, typiquement, c'est le raisonnement terrible. C'est qu'il y a moins d'élèves, on a toujours 1 100 000 fonctionnaires au ministère de l'Éducation nationale.
Mais pas en prof.
Et donc, 850 000 profs. Et j'ai fait un petit calcul, vu le nombre d'enfants, c'est un prof pour 13 enfants aujourd'hui. Il y en a plein qui sont pas bons élèves.
C'est pas vrai. Ils disent qu'en Europe, on est ceux qui à l'école c'est plus chargé de l'Europe. Donc après tu peux dire ce que tu veux. Il y a pas mal de gamins. Après t'as pas de gamins, t'es comme moi. Donc ça c'est un sujet qu'on maîtrise moins que Laura. Mais t'as plein de gamins qui n'ont pas de prof tous les jours. Donc à un moment donné il y a un problème.
Mais alors tu touches le problème. Comment on peut avoir le plus grand nombre de profs en Europe? Et tu me dis après, on a les classes les plus chargées.
Oui.
Bien sûr, il y en a un paquet qui ne sont pas devant les enfants. C'est mal géré.
Attends, mais on peut revenir à nos problèmes de pétrole, de gaz.
Farouk, l'État desserre les taux. Mais on a Sébastien qui veut intervenir aussi du côté de la Seine-et-Marne. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour. Je suis un peu estomaqué parce que je viens d'entendre, Sébastien.
Allez-y.
Je suis un peu estomaqué. La façon de voir les choses, en fait, là. De votre intervenant, il y a un moment donné où en fait c'est parce qu'on a un gouvernement qui pense comme ça qu'on est pris pour des cons. Il y a 1 100 000 profs. Il y a combien de profs qui travaillent réellement? Il y a combien de personnes à l'éducation nationale qui travaillent réellement devant les élèves? Il y en a combien qui branlent rien dans les bureaux? Et c'est ça qu'on paye en fait aujourd'hui. Il y a tous les petits fonctionnaires qui sont en bas dont on dit oui les fonctionnaires ils branlent rien. Ceux-là ils bossent et tous ceux qui sont en intermédiaire qui foutent rien, qui servent à rien dans des agences à la con, dans les trucs régionaux, dans les trucs tous ces postes-là à la con. Je parle pas de baisser les salaires de 21 ministres et tout, mais juste tous ces hauts fonctionnaire qui coûte des centaines de millions et des milliards d'euros, en fait. Aujourd'hui, il y a un budget qui a été voté pour 2026. Le budget 2026, il comprend pas la hausse de carburant, hein. Donc, tous ces milliards qui sont en plus, grâce à la hausse des carburants, on en fait quoi? Moi, je suis entrepreneur, je suis à 3000 euros d'URSSAF par mois, en fait. C'est-à-dire que si je fais le compte,
donc ça compense.
D'accord, la baisse de la consommation. Une consommation, c'est 20% de TVA, 10%. D'accord? Donc voilà, 20%, 10%. L'essence, c'est 70% de taxes. Donc il y a quand même une plus-value, hein. Parce que ce que les gens dépensent en essence,
c'est carburant,
les...
donc il y a moins de rentrée fiscale, c'est pour ça.
Ce que les gens consomment en essence, en fait, c'est ce qu'ils vont pas consommer ailleurs. Sauf que l'essence, ça rapporte plus au gouvernement et à l'État que le reste. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Français pour des cons, et il faudrait un peu réagir et dire, ben voilà, ces fonctionnaires-là, ils servent à rien. Et je parle pas des fonctionnaires qui sont en bas, qui se font chier à recevoir du public et qui sont insultés par les gens qui sont à bout. Je parle des fonctionnaires qui sont dans les bureaux et qui servent à rien. Je parle de ces gens-là, en fait. Ceux qui sont à 3, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par mois, voire plus pour certains, qui touchent plus qu'un président de la République alors qu'ils sont inutiles.
15 000 euros, il y a là dans votre discours. En réalité, les économies, elles doivent être faites partout. En bas, au milieu, en haut, partout. Et retomber dans la lutte des classes en disant c'est forcément au-dessus qu'ils nous prennent plus d'argent. Non, je pense vraiment qu'on doit tous accepter de faire un effort.
Merci à Sébastien d'avoir été avec nous, qui veut vraiment une réforme de l'État.
Il a raison. En attendant, quand même, la France, vous savez, dispose d'un atout considérable. On a des réserves d'hydrocarbures considérables sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle le pétrole et le gaz de schiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui l'exploitent. Les Américains en premier. D'ailleurs, on achète aujourd'hui du pétrole et du gaz de schiste américain, mais on l'interdit chez nous. Et on l'interdit depuis 2017. C'est François Hollande qui a décidé de l'interdire. Et pourtant, on avait fait à l'époque des analyses et précisément pour savoir ce qu'il y avait sous nos pieds. Et les bassins d'extraction français pourraient fournir autour de 16 milliards d'équivalent barils de pétrole. Ça veut dire 26 ans de consommation. On a 26 ans de consommation de pétrole sous nos pieds si on exploitait le pétrole de schiste. Et si on parle du gaz, on aurait 90 ans de consommation. La France pourrait être producteur d'hydrocarbures et arrêter d'importer.
Sauf que si tu arrêtes d'acheter le pétrole là-bas, ben ils vont arrêter de t'acheter de l'armement.
Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui,
il n'y a aucun intérêt économique pour la France d'acheter le pétrole à l'étranger, c'est vrai.
Pourquoi Donald Trump dit finalement cette guerre nous profite? C'est parce qu'il sait que son pétrole va se vendre partout dans le monde.
Il pense qu'il est débile.
Ceux qui peuvent l'en acheter par des droits d'Hormuz. Mais pourquoi alors moi je pose la question, pourquoi ce tabou français, pourquoi on n'exploite pas ce pétrole et
je viens de te dire, t'aimes pas la réponse.
Mais non, mais la réponse elle est beaucoup plus évidente. C'est on a mis dans notre constitution le principe de précaution. On est bouffé d'idéologie écolo. On nous dit que le gaz de schiste c'est très mauvais. Alors qu'en réalité, si c'est bien fait, extrait proprement, sans fracturation, je sais pas quoi. Je suis pas un technicien. Il y en a plein autour de moi, des industriels qui sauraient le faire proprement en respectant l'environnement.
Alors ça consomme beaucoup d'eau aussi. On dit que c'est voilà. Mais d'eau, en fait, et ça peut abîmer les sols.
On ne fait plus rien. En fait, dans notre pays, on ne fait plus rien.
Donc on a tort de pas le faire.
Et donc tu vois, on vit comme des Saoudiens en dépensant l'argent qu'on n'a pas et on refuse d'aller piocher comme les Saoudiens dans notre sol.
Est-ce qu'il faudrait aller piocher dans notre sol le pétrole et le gaz qui nous manquent là?
Moi je sais pas, mais quand on avait sorti les histoires de gaz de schiste, tout le monde t'expliquait que non seulement c'était polluant, c'était dangereux, et que deuxièmement...
On l'achète ailleurs.
Oui, mais...
C'est hypocrite.
Bien sûr que c'est hypocrite, on est bien d'accord. Ça, c'est hypocrite.
Donc on veut que les autres se polluent pour nous, en fait.
Ben oui, c'est comme ça que ça marche partout, en fait. C'est la même chose. Les gens, ils achètent bien notre électricité nucléaire, mais ils veulent pas de nucléaire chez eux. Les Allemands, les premiers, par exemple, tu vois. Parce que les Allemands, ils ont jamais voulu le nucléaire. Rappelle-toi, les mecs, dans les années 70, c'était la guerre.
Là qui rouvre.
Voilà, mais en fait, nous, ils prennent notre nucléaire à nous parce qu'ils veulent pas de ça chez eux. Bien sûr qu'on est hypocrite, mais par contre.
Pourquoi il n'y a pas au moins le débat? Parce que c'est un débat qui.
On l'avait eu,
on l'a fait dans les grandes gueules.
Il a été tranché.
Et puis à un moment donné, on l'a dit, c'est terminé et personne. Moi, j'aimerais bien qu'un candidat à la présidentielle. Rouvre le débat, dit bah voilà, il y a peut-être les moyens de trouver de l'argent.
Mais Olivier, ne serais-tu pas en train de nous faire les grandes gueules des années 70? Là, on est en train de nous parler qu'à partir de 2030, il n'y a plus de voitures à pétrole. Donc tes 26 ans de pétrole, ils ne serviront à rien.
Les rêves écolo, c'est fini.
Oui, non, mais c'est pas les rêves écolo.
Il y a que Marie Tondelier qui croit
encore. Oui, mais en fait, tu es en train de nous dire, là, au moment où on est en train de dire, là, en face de moi, j'ai deux personnes qui ont des voitures hybrides. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'ils ont basculé sur ce truc de se dire.
Ils ont encore besoin d'essence.
Oui, mais ils ont besoin d'essence, mais de moins en moins. Donc en fait, on est dans un moment de la société. On est en train de mettre des ronds partout pour tout ce qui est décarbonation et tout. Et d'un seul côté, en train de nous dire, nous, on va remettre des trous, et puis la flotte. Moi, j'ai fait des années que j'entends que l'eau sera bientôt le pétrole qu'on a besoin et qu'en fait, ce sera bientôt la ressource la plus dure à avoir.
Pas en France.
Bah, on
là,
verra.
Là où je peux partager ton opinion, c'est
j'espère
que tu vois, tout à l'heure, on est venu avec Louis Gerbier. On est venu de Paris.
Déjà, c'est un exploit.
Oui, déjà, tu as dû avoir peur.
On s'est pas parlé. On était assis derrière.
C'est parlé. Lui qui conduisait.
Et justement, on est venu avec une voiture chinoise.
Électrique.
350-400 km d'autonomie uniquement électrique. Et le
elle appartenait à qui à cette voiture?
C'était au chauffeur.
Parce que lui, jamais n'a pas avec des gars passés pour se payer.
Et puis il n'a pas le permis surtout.
Oui, c'est ça.
elle appartenait au chauffeur VTC. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'exploiter les gisements de lithium qu'on a en France.
On en a dans la Nièvre.
Oui, mais il commence à y avoir des moratoires et des associations qui demandent à ce qu'on arrête l'exploitation.
Principe de précaution.
Or là, on pourrait avoir.
Et même qui voudrait qu'on arrête de
rouler avec l'essence. Peut-être pas une souveraineté, mais au moins à acquérir, si tu veux, une certaine autonomie en pouvant produire nous-mêmes nos piles. Tu vois,
la plus grosse connerie, ça a été.
On pourrait être les numéro un en Europe.
Oui, mais pas
la plus grosse connerie, c'était le nucléaire. C'est de dire, à un moment donné, et Hollande, l'astuce est fourvoyée, c'est de dire le nucléaire, machin. Sauf que, en fait.
C'était même à l'échelle européenne, parce que les Allemands poussaient pour qu'on abandonne le nucléaire.
Oui, mais c'est sûr, les Allemands,
et Emmanuel Macron était sur cette
liste. Les Allemands, bien sûr, il faut toujours qu'on aille, qu'on bouffe le j'ai dit une connerie, mais qu'on suive là, les Allemands, les premiers qui ont été réclamés du gaz aux Russes pendant la guerre. Donc ils sont mignons, les Allemands.
Parce que les Allemands, ils ont fait le pari du gaz russe. Bon, c'était pas un très
bon pari. Depuis 1982, et Séville, on aurait dû les sortir de l'Europe.
Exact, moi je suis d'accord avec toi. Mais en fait, moi je trouve que Hollande, sa plus grosse erreur, c'est le nucléaire. En fait, notre autonomie économique pendant des années, basée sur le nucléaire, en fait. Et là, d'un seul coup, tu te dis, bah non, le nucléaire, on va arrêter parce que bon, c'est ça. Enfin, voilà. Puis quand on avait l'autre, là, le ministre de l'économie tripoteur, là, Ushuaïa, là, je sais plus comment il s'appelle, là.
Nicolas Hulot.
Voilà, oui, c'est lui qui dit surtout arrêtons, là.
Le ministre tripoteur.
Bah, rappelez-vous, enfin, moi, je crois qu'il est sorti un peu du gouvernement à cause de ça, en fait.
Oui, on l'a plus jamais entendu
d'ailleurs. Voilà, il est en train de boire.
Oui, mais c'était le gourou, on pouvait pas remettre en cause. Souviens-toi, il y avait une espèce de pensée dominante et unique. Si tu étais pour le nucléaire, t'étais vraiment complètement ringard. Et il fallait suivre Nicolas Hulot et ses amis. Et c'était la doxa en quelque sorte.
Ça nous a
On a Anthony qui est avec nous au 32-16. On va aller du côté de la Côte d'Or. Il est commerçant dans le fromage. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous. Ce matin, je prenais mon
camion. Bienvenue pour votre activité. Allez-y, je vous laisse
parler. Ouais, ce matin, je montais dans mon camion là pour partir pour une petite livraison. Et puis, comme souvent, j'allume la radio et je vous écoute. Parce que c'est sympa, vous illustrer un petit peu, vous savez, ce qu'on fait à table avec les potes, c'est-à-dire quand on refait le monde. Et c'est plutôt chouette. Donc, j'aime bien vous écouter parce qu'il y a plein d'avis différents et c'est très intéressant. Mais là, j'ai fait un bond dans ma voiture. J'ai failli piler d'ailleurs en écoutant l'intervenant précédent, un monsieur qui a appelé en disant que c'était les fonctionnaires intermédiaires qui étaient intéressants d'étudier et de voir si c'était pas ceux-là qu'il fallait supprimer parce que c'est ceux-là qui coûtent une blinde et c'est pas ceux qui sont en bas de l'échelle. Il a totalement raison. Le truc qui m'a fait bondir, en fait, c'est la personne qui lui a répondu. Alors, je suis désolé, j'ai pris l'émission en cours, donc du coup, je sais pas qui est-ce qui a répondu et qui a parlé de remettre
c'est
en place
Antoine,
la lutte des classes.
Antoine.
Attention.
Ouais.
Oui, c'est Antoine qui disait, ne faisons pas la lutte des classes. S'il faut se séparer de fonctionnaires, il faut prendre des petits, des moyens, des grands.
D'accord, ok, très bien. Vous dites clairement ce qu'on dit depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis Tonton. Vous dites clairement, il faut que tout le monde fasse des efforts. Ça fait 50 ans qu'on nous dit que tout le monde doit faire des efforts, et je suis désolé de vous dire ça, monsieur, mais c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Donc, il y a un moment donné, entre ce que l'on dit, théorie et la pratique. Non mais vous êtes déconnecté du monde en fait. Vous êtes comme nos politiques. Vous êtes déconnecté du monde. Vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe en fait. C'est toujours ceux qui sont en bas. C'est toujours ceux en bas. Ah ben, excusez-moi monsieur, je vous connais pas. Je me suis présenté. Moi, je suis fromager. Vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre métier, s'il vous plaît, monsieur? C'est pas une critique, hein. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire en fait. Vous faites quoi dans la vie, monsieur?
Vas-y, Antoine, explique ce que tu fais.
Moi, j'ai été collaborateur d'élus dans des collectivités pendant une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis consultant à mon compte pour les entreprises. Je vais chercher les contrats un par un. Je vois exactement la difficulté. Donc, vous attendiez à quoi? Que je sois né avec une
carte d'argent dans la bouche à notre monde.
C'est précisément parce que...
Tout le jour, il y a des gens qui me payent
pour faire tourner leur boîte. Mais comment ça, c'est pas un métier? Je suis consultant en stratégie, je suis consultant juridique, et il y a des gens qui me payent parce que je leur fais gagner de l'argent.
fait, ça ce que je veux dire, métier. C'est que ceux qui raquent aujourd'hui, ceux qui en chient, ceux qui ont des fins de mois, et comme disait Coluche, qui commencent au 3 du mois, des fins de mois difficiles, c'est ceux qui mettent les mains, excusez-moi le terme, c'est ceux qui mettent les mains dans la merde. C'est ceux qui sont en capacité d'apporter une plus-value aujourd'hui à notre pays. C'est ceux qui font que notre pays tourne. C'est ceux qui ont travaillé pendant le Covid. Vous voyez, ceux qui ramassaient les poubelles, les soignants, ces gens-là.
Attendez, Anthony, laissez
en... Pardon, vous voyez, vous êtes typiquement dans ce que je disais. La lutte des classes. Je suis un col blanc pour vous parce que je travaille pas de mes mains, je travaille avec ma tête. Et donc pour vous, c'est intolérable que moi je puisse gagner de l'argent et c'est moi qui pèse sur la société. Ouais. C'est pas exact. Je participe à faire tourner la société comme vous.
En plus, t'es célibataire, tu dois payer un max.
Et j'allais y venir. Je paye l'équivalent de deux mois et demi à trois mois et demi de revenus en impôt sur le revenu par an. Donc, ce que je gagne en deux mois et demi à trois mois, chaque année, je le donne rien que sur l'impôt sur le revenu. Je gagne bien ma vie. Oui, je travaille beaucoup. Je fais 50, 60, 70 heures par semaine parfois. Je suis célibataire sans enfant. J'ai que ça à faire de travailler. Mais je me dis, j'ai un peu le sentiment que c'est moi qui porte sur le dos une partie de ce pays. Et donc, quand vous me dites que c'est moi le parasite, j'ai un peu de mal. Hein.
On va conclure la discussion. La France est-elle toxicomane de la taxe? C'était ce qui était notre question du jour. Et on va voir comment vous avez réagi. Oh, je n'ai guère de doute sur la manière dont vous vous êtes prononcé. Voilà. C'est un oui à 95,5%.